Alors bonjour à ceux que je n'ai pas salués, rebonjour aux autres. Je vous proposerai aujourd'hui, la fois prochaine, des méditations sur la fin de l'évangile de Jean, puisque c'est arrivé dans mon parcours de lecture. Fin de l'évangile de Jean, et puis fin d'un repas partagé entre Jésus et certains de ses disciples. Et l'auteur de l'évangile, Jean, nous raconte une partie de l'échange qu'il a avec Pierre à la fin de ce repas partagé. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci, les autres disciples présents? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi ?» Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ? » Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Donc trois questions qui sont posées à Pierre. Et qui, dans le fil de l'Évangile, font peut-être écho, sont peut-être comme le pendant de trois autres questions qui avaient été adressées au même Pierre. C'était au moment de l'arrestation de Jésus, quelques chapitres auparavant. Et trois fois, on lui avait demandé, « Mais toi, attends, je te reconnais. Est-ce que tu ne fais pas partie là, du groupe qui est avec le bonhomme qui est en train de se faire juger ?» là ?» Et Pierre avait dit, « Non, non, ni vu ni connu, pas connaître. » Jamais entendu parler. Certainement pas. Et peut-être que c'était pour ça qu'il était important de rapporter cette histoire à la fin de l'Évangile, comme pour revenir sur ce qui s'était passé. En fait, si on lit surtout l'Évangile de Jean, on se rend compte que c'est très rare qu'on nous raconte quelque chose où Jésus n'est pas un des personnages directement concernés. Les épisodes avec Pierre, auparavant, c'est raconté à part. Donc, on s'attarde à quelqu'un de spécifique autre que Jésus, auparavant, et ça, c'est très rare. Jean s'est attardé à raconter le reniement, la trahison de Pierre. Et peut-être, il ne fallait pas laisser le lecteur avec ce reniement. Peut-être. Alors j'insiste sur le peut-être, mais je ne veux pas insister, donc c'est compliqué. Peut-être parce qu'en fait, le texte ne le dit pas. Quand on lit ce texte, on ne s'en rend pas compte explicitement. Ce n'est pas dit explicitement. Et je dis aussi peut-être parce qu'en fait, ce n'est pas seulement Jean qui raconte le reniement de Pierre, mais les autres aussi, les autres évangiles, nous racontent le reniement de Pierre, mais eux, ils ne racontent pas la suite. Donc peut-être. Peut-être aussi que c'était important que Jean le fasse, parce qu'il est le seul, en tout cas parmi les quatre évangiles de nos Bibles, à raconter que Pierre se voit confier une responsabilité. Et on pourrait s'étonner, mais attends, c'est ce Pierre-là qui a renié Jésus, qui se voit confier une responsabilité. Il dit qu'il a une responsabilité. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de le croire. Donc peut-être pour cette raison, c'était important de revenir sur l'épisode précédent. Peut-être. Mais on va laisser les peut-être de côté. En tout cas, notre chapitre 21, alors l'ensemble du chapitre, ce qui précède et ce qui suit juste après, pour le lecteur, je crois qu'il prend le lecteur par surprise. Parce que quand vous lisez le chapitre 20, je m'explique, on avait bien l'impression de lire la fin de l'Évangile. Au chapitre 20, Jésus était apparu aux disciples, puis il y avait l'épisode avec Thomas, voilà, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, peu importe. Enfin, voilà, peu importe, ça ne compte pas maintenant. Et on avait lu après tout ça La chose suivante, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est la première fois dans l'évangile de Jean qu'il est question de l'évangile de Jean lui-même, dans ce livre. Donc c'est, au bout d'un moment, il dit je suis en train d'écrire un livre et j'ai raconté tout ce qui précède, voilà, dans un livre. Et Jean mentionne en plus pourquoi il l'a. Oh, je suis allé un peu trop vite là. Pourquoi il l'a écrit. Ce qui s'y trouve a été écrit pour que. Donc c'était, quand on lit ça, on a l'impression que voilà, il est en train de conclure, il est en train de boucler la boucle, c'est terminé, impression que c'est fini, et maintenant c'est au lecteur de faire son chemin à partir de ce qu'il entend. Et puis on se trouve, surprise, chapitre 21, c'est pas la fin, il y a un chapitre qui s'ajoute, qui nous raconte la pêche que font les disciples. Donc voilà, c'est un petit peu inattendu. Et puis à la fin du chapitre 21, on trouve une nouvelle clôture qui est faite de la même façon. Il parle des choses qu'il a écrites, etc. Donc on croyait que c'est fini, et puis non, c'est pas fini. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a été rajouté? Je sais pas trop. Eh bien peut-être, pour les raisons que j'ai dites plus haut. Peut-être. Mais en tout cas, je laisse vraiment le peut-être de côté. En tout cas, nous trouvons là un des très rares récits de l'Évangile où Jean s'arrête à quelqu'un d'autre que Jésus. Pierre, auquel il s'est déjà attardé pour raconter son reniement. Et nous constatons, du coup, que dans les faits, dans la pratique, Jésus se montre prêt à passer par-dessus un tel reniement. Prêt à passer par-dessus la trahison. Par-dessus le mal commis. Et ça peut nous paraître normal, je crois pas, parce que ailleurs dans la Bible, nous lisons la chose suivante, hein, si nous renions Jésus-Christ, lui aussi nous reniera. Donc si vous prenez la formule comme ça, vous dites, attendez, il y a une contradiction. Quelque chose comme ça, quoi. Vous êtes tenté de le penser, même si vous n'osez pas le dire. Mais ici, nous voyons dans ce texte que nous avons lu ce qui se passe ou ce qui peut se passer quand il y a un reniement. Et je suis frappé parce que ce n'est pas un espèce de discours spirituel, général, organisé sur le reniement. Voilà, grand 1, la définition du reniement. Alors le reniement, c'est quand, on explique bien. Et puis grand 2, que fait Dieu devant notre reniement? Alors, il y a plusieurs possibilités. Petit 1, si telle et telle condition sont réunies, alors peut-être que Jésus va passer par-dessus. Et puis petit b, là, non, il ne passera pas par-dessus dans telle ou telle situation. Ce n'est pas du tout ce qu'on lit dans le texte, évidemment. Mais nous voyons ce qui s'est passé, nous lisons ce qui s'est passé dans cette situation précise. Et nous voyons, c'est ce qui me touche, qui me bouleverse dans ce texte, que le reniement, que la désertion, le « je t'ai laissé tomber » et même, c'est pas que ça, c'est « je t'ai laissé tomber alors que j'avais affirmé haut et fort, du haut de mes certitudes, que je ne te laisserai jamais, jamais tomber, moi. Si tous les autres te laissent tomber, c'est leur problème, mais moi non, je ne te laisserai pas tomber. Tu peux compter sur moi. » Donc je vois que même si la situation pourrait paraître sans issue, qu'est-ce qu'on fait dans la situation là? C'est bloqué. Et apparemment, même si... comme le dit Timothée, si nous renions Jésus-Christ, lui aussi nous reniera. Eh bien, je vois que tout n'est pas perdu, pour autant. Je vois qu'on pourra avoir fait fausse route, et même pire que fausse route. Je vois que l'accueil de Jésus reste encore possible. Même si notre culpabilité nous travaille intérieurement, et même si elle nous travaille pour de très bonnes raisons, et même si les autres ne nous en parlaient pas, ce qu'ils oublient rarement de faire. Oh, mais t'as vu ce que t'as fait, là? Donc, même s'ils ne disaient pas ça, même si eux ne nous en parlaient pas, il nous arrive d'être sans pitié envers nous-mêmes, et nous nous flagellons. T'es mauvais. T'as raté. Il y a une voix qui me dit en moi-même, je suis déçu. ou qui nous dit à nous-mêmes « je suis déçu ». Puis c'est un déçu qui fait sentir que c'est plus que déçu, quoi. Alors, me direz-vous, à juste titre, il n'est pas du tout question ici, dans le texte, de culpabilité de Pierre. C'est pas dit. Il n'est pas question ici de ce qui travaillait à l'intérieur de lui. Et comme il n'est pas dit explicitement que le récit est en train de revenir sur l'épisode de la trahison, si tout ça se fait, si tout ça se passe, ça se fait sans que ce soit rendu apparent. Peut-être, excusez-moi, je n'avais pas prévu de le dire, peut-être à la manière de ces moments où nous, dans notre relation avec quelqu'un avec qui ça a frité, s'il y a quelque chose qui s'est passé de douloureux entre nous, et ces moments où avec l'autre on parle d'autre chose, d'un sujet anodin a priori, où on prononce avec l'autre des mots anodins, l'air de rien, mais derrière ces mots anodins, il y a autre chose, il y a un enjeu bien plus fort qui est en train de se jouer. Et l'un et l'autre en sont très conscients. Mais si on enregistre la conversation, ça n'apparaît pas. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se tenter, qui se jouent au niveau du regard, qui se jouent au niveau de la façon d'écouter l'autre. Et qui ne sont pas... les mots, si on les lit, ça ne dit pas ça, mais c'est bien ça qui se joue. Enfin, je fais l'hypothèse que ça nous est arrivé tous plus ou moins, au moins à un moment de notre histoire. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a un enjeu qui est là, qui n'est pas apparent. Si je le dis en termes un peu alambiqués, la grammaire du pardon, le langage du pardon n'a pas toujours besoin d'explicite. Et la grammaire de la restauration n'a pas toujours besoin d'explicite. On n'est pas forcément obligé ou en mesure de pouvoir repérer les étapes du processus. Étape 1, il a demandé pardon. Étape 2, l'autre a entendu et lui a dit « Je te pardonne ». Mais peut-être, c'est bien ce qui se passe ici. Donc il faut respecter, je crois, la façon dont ça nous est raconté. Et du coup, je dis peut-être. En tout cas, le lecteur constate que Jésus accueille Pierre. Et je vois que j'ai encore écrit un « peut-être ». C'est le premier moment qu'il a peut-être avec lui en aparté, en tout cas dans le récit, c'est le premier moment. Mais tout le monde le sait, enfin, voilà, parce qu'évidemment, on lit encore le texte aujourd'hui, donc on le sait. Mais c'est le premier moment, apparemment, dans le récit, en tout cas, qu'il a en face à face avec lui. Jésus accueille Pierre, mais Jésus fait plus que l'accueillir. Il lui confie une responsabilité, et il lui confie une responsabilité sur d'autres. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans mes diapos, mais c'est voilà. Prends soin. Prendre soin de l'Église, mes agneaux, l'histoire des brebis, des agneaux, pour quelqu'un d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est une façon de parler des disciples de Jésus. Prends soin de l'Église. Et c'est plus que l'accueillir, ça. C'est que, enfin, j'entends là que Jésus est prêt à compter sur Pierre. Il est prêt à lui faire confiance. Et si c'est bien de pardon dont il s'agit en arrière-plan, ce n'est pas du bavardage sur le pardon. Grand 1, définition, grand 2, petit a, petit b. Mais c'est du pardon en acte. Parce que ça se présente comme un « Pierre, je te fais confiance. Je te fais confiance en vrai. Je compte sur toi. Oui, oui, je compte sur toi. Toi. » Et du coup, je crois qu'on pourra en être ému. En tout cas, je le suis. Parce que je me dis que si Jésus a fait ça pour Pierre, ben j'ai davantage de facilité à croire que Jésus peut le faire, veut le faire pour moi, aujourd'hui. Il peut le faire pour moi. Et j'entends que s'écarter de Jésus, ne pas agir à la hauteur de ce que nous savons qu'il attend de nous, de ce que nous attendons nous-mêmes de nous, ce n'est pas la fin pour autant. Il reste possible, peut-être possible, de se voir rétabli. Aujourd'hui aussi. Voici le texte, je le reprojette à nouveau. Trois questions, trois fois, même tu. Et peut-être, encore, plusieurs d'entre vous diront, en fait, c'est pas trois questions, mais c'est deux questions. Qu'on traduit par aimer en français, alors, voilà, mais deux questions qui ne seraient pas équivalentes. Je m'explique. Donc les deux premières fois, Jésus, alors, oui, voilà. Les deux premières fois, Jésus dit aimer en utilisant un verbe qu'on connaît en français, c'est un verbe grec, agapé, voilà, l'amour. Généralement, on est familier de ça. Donc le verbe, le mot, le nom commun de l'amour parfait. L'agapé, l'amour parfait. Agapao, le verbe aimer, aimer parfaitement. L'amour pur, l'amour divin, l'amour plus, king size. Enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et il se trouve que Pierre, dans le récit, répond avec un verbe plus faible. C'est le verbe philéo, la philanthropie en français. Hein. Voilà. Donc l'amour d'amitié. Et il se trouve que la dernière fois, Jésus utilise le même verbe que Pierre, un peu comme s'il s'ajustait, il lui demandait « Est-ce que tu es capable de m'aimer plus ?» Et Pierre disait « Je peux t'aimer. » Et donc Jésus dirait « Bon, est-ce que tu es capable de, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre dirait « Oui, je t'aime. » Donc deux intensités d'aimer qui ne seraient pas les mêmes. Et si vous fréquentez des églises depuis longtemps, vous avez sans doute entendu cette façon de présenter le texte. C'est peut-être comme ça même que vous lisez le texte. Donc voilà, vous êtes peut-être même prêché dessus. Donc, voilà, donc c'est pour dire que c'est familier. Et du coup, ce texte devient l'occasion de s'interroger sur cette intensité de notre amour pour Jésus. Avec quelle intensité j'aime Jésus ? Voilà, pas du tout, un peu, beaucoup. Alors... Désolé, je vais prendre le contre-pied. Juste, cette approche me semble assez répandue. Je pense qu'elle a un côté attirant, parce qu'elle, en tout cas, elle donne une profondeur supplémentaire au texte. Et elle est au service d'une interrogation qui passe bien. Et je vous fais part que, de mon point de vue, elle me semble pas assez fondée. Je m'explique. Alors, elle est déjà très fragile, parce que ce mot « agapé », on dit amour divin, amour parfait, etc. Eh bien, il n'est pas employé que pour décrire l'amour pur, divin, ultime, loin de là. Parce que dans l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu, mais qui a été traduit par les Juifs en grec, quand l'auteur du livre des Rois, je crois, raconte le récit qu'un des fils de David, Amnon, quand il décrit l'attirance, l'amour qu'Amnon a eu pour sa sœur Tamar, qu'il va violer, il l'aime tellement qu'il va la violer, mais c'est le mot agapé qui est employé pour traduire. Donc, juste dire, agapé, c'est pas nécessairement l'amour pur, l'amour divin. Parce que là, si je t'aime tellement que je te viole, si vous êtes la personne violée, même, bon, voilà. Et de façon générale, c'est vrai dans toutes les langues, donc ne croyez pas que le grec est une langue qui est spécifique, à l'exception d'un vocabulaire technique, je cherche un exemple, j'en trouve pas, donc je laisse tomber, il se trouve que parfois deux mots différents peuvent avoir le même sens, c'est synonyme, simplement, hein, ou des sens suffisamment proches pour être utilisés comme synonymes. Et donc, il y a des mots qui peuvent être interchangeables. C'est une possibilité. Donc, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je dis que c'est parfois le cas. Et si je voulais vous taquiner, je dirais que c'est peut-être le cas. Et parfois, c'est simplement pour des raisons de style. On ne veut pas répéter deux fois le même mot, la même phrase, donc on emploie un synonyme. Voilà. On le fait ça dans une conversation courante, c'est normal. Je crois que c'est ce qui se passe ici. Et il y a trois éléments de contexte qui me semblent déterminants pour le dire. Dans notre texte, Jean utilise aussi deux mots différents pour décrire les agneaux. Paix mes agneaux, nourris mes brebis. Ce n'est pas le même mot. Et il désigne la même mission, c'est bien la même chose à chaque fois. Et on ne se pose pas la question en disant oui, mais s'il dit agneau à un moment et brebis à un autre, ça change. Non, non. Et puis c'est pas tout, parce que Jean varie aussi le terme qui est traduit par prendre soin. Hein, je l'ai pas mis, voilà. Prends soin, paître dans d'autres traductions. Voilà. Mais c'est la même action. Donc c'est bien, je veux dire, dans le contexte immédiat, c'est bien le style de Jean que de varier son vocabulaire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ailleurs dans l'évangile, les deux verbes, donc ces deux verbes agapao et phileo, sont employés en fait de manière interchangeable. J'illustre, je ne lis pas les textes, mais si vous voulez, oui. Le Père aime le Fils. Dans Jean 3, on dit, c'est le verbe agapé, le Père agapaille le Fils. Mais dans Jean 5, j'arrive pas forcément à lire les diapos moi-même, dans Jean 5, c'est le verbe phileo. Et puis je prolonge, les disciples aiment Jésus. Jean, Jésus aime Lazare. Les deux verbes sont employés de manière pour dire la même chose. Et enfin, et si ça ne suffit pas, moi ça achève de me convaincre, on lit la chose suivante. Pierre fut peiné parce que c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Et je dis « Attends, s'il pose pas la même question, on ne peut pas dire trois. » Pour moi, j'ai du mal à penser qu'on parlerait de troisième fois si Jésus venait lui poser une question différente ou fortement différente des deux premières. Donc j'ai tendance à penser que c'est parce qu'il pose la même question qu'on peut compter trois. Il lui demanda une deuxième fois, il lui demanda une troisième fois, même question. Donc je conclus pour ma part, voilà, et vous êtes libre de ne pas avoir le même point de vue que moi, que c'est la même question. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Et cette question, elle est adressée à Pierre, en tout cas. Il serait difficile de ne pas l'entendre aussi, pour soi. J'aimerais, cette dernière étape, essayer de la faire entendre pour nous. L'entendre pour soi comme si Jésus nous l'a posé. Toi qui lis, toi qui écoutes en ce moment, m'aimes-tu ? Jacques, m'aimes-tu ? Enfin, pas moi, mais je sais. Luc, m'aimes-tu ? Voilà, Annick, m'aimes-tu ? Joël, je sais pas où j'étais, Joël, j'ai entendu. Oui, voilà, c'est ça. J'avais noté ton nom à l'avance, c'est pour ça que je cherche maintenant. Vous mettez votre prénom, m'aimes-tu ? Toi qui es là ce matin, aimes-tu Jésus ? En tout cas, Jésus se soucie, au moins chez Pierre, de la présence de cet amour. Et donc, il s'en soucie vraisemblablement chez nous aussi. Et cette question, elle est lancée à la cantonade. Voilà, donc c'est une question un peu universelle, donc il s'adresse du coup à tout le monde. Mais elle est singulière, parce que je crois qu'il faut l'entendre avec son prénom à soi. Elle est personnelle, et c'est à chacun d'y répondre. Et en tout cas, Jésus, lui, rebondit de manière très singulière, parce qu'à Pierre, Jésus confie une mission qui est singulière, qu'il ne confie pas à d'autres. Et peut-être, donc, si nous répondons « Oui, Seigneur, je t'aime », peut-être que Jésus ne va pas nous dire « Prends soin de mes agneaux », il va peut-être nous dire autre chose. En tout cas, si je prends l'évangile de Jean, je me dis que, au minimum, Jésus peut nous dire la chose suivante, au chapitre 14, verset 15, « Si tu m'aimes, eh bien garde ce que je t'ai ordonné de faire, garde mes commandements. » Alors la traduction « Si vous m'aimez, vous suivrez », c'est, on peut traduire « Si vous m'aimez, suivez mes commandements. » M'aimes-tu ? Cette question nous rejoint, je termine en disant qu'elle peut même nous rejoindre avec une certaine insistance. M'aimes-tu ? Aimes-tu Jésus ? Aimes-tu Jésus ? Aimes-tu Jésus ? En tout cas, à Pierre, elle est posée trois fois. Et je me suis demandé si Pierre ne s'en était pas étonné, au moins un peu. Tu sais que je t'aime, tu connais mon amour pour toi. C'est ce qu'il dit dès le début. Il ne dit pas oui, oui Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Si je voulais, je force le trait. Pas besoin que je te le dise. Et ça pourrait être, pourquoi tu me poses une question dont tu connais la réponse ? C'est pas ça, là, où on fait des hypothèses. Mais Jésus pose la question trois fois. Et l'auteur nous dit explicitement qu'à la troisième fois, quand même, Pierre fut peiné de l'entendre, peut-être agacé Et ça explique sans doute que sa réponse, si je puis dire, double de volume. Il dit pas simplement « Tu sais que je t'aime », mais il dit « Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime ». Et bien sûr que Jésus le sait. Mais là encore, peut-être que Pierre avait besoin de se l'entendre répéter 3 fois, pour l'entendre vraiment, pour que ça répercute complètement à l'intérieur, peut-être. Même si ça lasse, je ne sais pas. Mais nous, m'aimes-tu ? Ce que je sais en tout cas, c'est que cette question, elle nous est sans doute, c'est pas la première fois que vous lisez le texte pour la plupart d'entre vous, et puis que vous vous posez la question, qu'elle vous est posée, aimes-tu Jésus ? Donc ce que je veux dire, c'est que cette question, elle nous a sans doute été proposée tout au long de notre vie chrétienne. Et en même temps, la répétition de cette question, si elle peut nous permettre de remettre certaines pendules à l'heure, de revoir certaines priorités, elle peut aussi parfois nous agacer, nous attrister ou bien nous inquiéter, faire naître du doute, de la crainte, voire de la pression. Est-ce que j'aime Jésus, pour de vrai ? Et surtout si on imagine, enfin si on lit le texte en disant qu'il y a des degrés d'intensité, il y a 2 types d'amour, voilà, c'est pas ma lecture, mais bon, ça peut être la vôtre. Est-ce que j'aime vraiment Jésus autant qu'il le faudrait ? D'un amour pur. Moi qui ne suis pas toujours à la hauteur de mes aspirations, de mes belles confessions de foi, je chante au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de tout, et puis passer à la porte de l'église, bon, Seigneur, je l'ai oublié, quoi, quelque part, enfin, il s'est perdu en route. Moi qui ne suis pas toujours à la hauteur de mes aspirations, même si peut-être j'ai pas trahi complètement Jésus. Ce qu'il y a de touchant à entendre ici, au travers de l'exemple de Pierre, je crois, c'est qu'aimer n'empêche pas la présence de déficiences. Aimer n'empêche pas des inconstances, voire même des reniements. Alors, ça manie avec précaution, sans doute, mais j'ai envie de le dire quand même comme ça. En tout cas, aimer ne veut pas dire que nous sommes dans une situation de béatitude constante, quand on marche dans la rue les yeux fermés tellement nous aimons Jésus. Et puis c'est tellement présent tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ça, c'est vrai avec Jésus, c'est pas tout le temps comme ça. On n'est pas dans cette intensité d'amour tout le temps. Mais c'est vrai tout bonnement, je crois, enfin je sais pas, moi que quelqu'un me démente, mais voilà, qu'il le fasse discrètement, parce que sinon vous allez dire, mais le pasteur dit peut-être pas la vérité. Donc. Bon, je plaisante. C'est vrai dans notre vie de couple, avec celui ou celle qu'on aime. J'aurais du mal à croire si vous me dites que vous êtes tout le temps porté tellement plein d'amour et d'attention pour l'autre, etc. J'aimerais entendre ce que l'autre raconte, à part, de préférence. C'est vrai aussi dans notre vie d'église. Mais on a parfois du mal à s'aimer un peu les uns les autres, ou beaucoup parfois. Il nous arrive, je crois, plus ou moins, et dans certains domaines, ou dans tous ces domaines, d'aimer, et parfois même de trahir. Alors oui, c'est choquant. Enfin, c'est choquant pour nous, parfois, quand nous voyons que j'ai fait ça. Oui, c'est pas souhaitable. Oui, c'est humiliant. Je veux dire que ça arrive. Et parfois, dans la façon dont nous invitons à aimer, parfois dans la façon dont nous nous invitons nous-mêmes à aimer, dont nous aimerions aimer, parfois, à cause de nos idéaux sur l'amour, un espèce d'amour sans faille, à force d'insister sur cet idéal-là, à force de le valoriser, à force de faire jouer la fibre dramatique et sentimentale, j'ai peur qu'on génère pour les autres et pour nous énormément de culpabilité, parce qu'on n'est pas à la hauteur, bien souvent. La culpabilité tellement on n'a pas aimé aussi fort qu'on aurait voulu. Tellement qu'on n'a pas aimé aussi fort qu'on aurait aimé aimer. Et on nous fait bien sentir de l'extérieur. Ah, toi, tu dis que tu aimes, hein, tu es un chrétien, ben dis donc. Avec des amis comme toi, je préfère être avec mes ennemis. Hein, parce que... Donc on nous fait bien sentir de l'extérieur, mais nous nous le faisons aussi sentir à nous-mêmes combien j'ai été nul. Et je crois qu'on est très, très fort dans les milieux comme des milieux d'église à appuyer là-dessus. Très fort pour nous faire attendre à nous-mêmes et aux autres cet amour idéal pour Jésus. Et c'est, je dis ça pour l'église, mais c'est vrai de l'amour en général pour le couple. On fait porter sur le couple des attentes. On s'attend à vivre ça en couple soi-même. Et puis on nous a dit, mais le mariage, tu verras, tout sera merveilleux. Et du coup, on est avec des attentes parfois qui se trouvent en décalage avec une réalité. Voilà ce que le vrai couple devrait vivre. Puis quand je regarde... non, je ne vais pas dire quand je regarde ma femme. Quand je regarde ma vie de couple, dans nos réalités de vie de couple, nous nous découvrons parfois avec un petit amour. Tellement petit, enfin... Il nous semble tellement, tellement, tellement petit par rapport à ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait être, ce qu'il faudrait dire. Bon, je résume. L'amour en général et l'amour chrétien en particulier peuvent être des idées aussi, si écrasants, qu'on se fait peser sur soi et qu'on fait peser sur les autres. Ce que je trouve de beau, et ce qui me donne de l'espérance, c'est qu'ici, dans le texte, Jésus ne fait pas ça. C'est comme si, j'exagère peut-être un petit peu, mais je ne suis pas sûr, peut-être, devant Pierre, Jésus se montre prêt à accepter cet amour médiocre. En tout cas, Jésus ne méprise pas. Jésus ne remet pas en cause cette confession d'amour. Jésus ne rit pas, ne ricane pas, en disant « Tu m'aimes, toi ?» Non mais... C'est quoi ce délire? T'es pas crédible. Jésus ne semble pas dire que cet amour a été invalidé par une trahison et que c'est juste incompatible. C'est juste pas possible. Je suis touché de voir que Jésus est prêt à accueillir même cet amour qui est chargé d'échecs. Cet amour qu'on pourrait estimer au minimum décevant. Et c'est plus qu'un accueil. Prends soin de mes brebis. Alors, me dis-je, peut-être qu'il pourra accueillir mon amour, ton amour, de la même manière. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Que le Seigneur nous porte, nous aide à le faire, à le vivre.
Laurent. C'est donc la fin de notre culte. Mais avant de partir, je voulais vous inviter.